Bienvenue sur Oser, le podcast qui part à la rencontre des alumni de l'enseignement supérieur qui ont fait basculer leur vie professionnelle pour s'investir dans la construction d'un monde durable. Ils nous parlent de leur parcours et de ce qui a motivé leur reconversion vers un métier qui œuvre au bien commun. Nous évoquons avec eux les francs changements, comment ils ont osé sauter le pas et leurs engagements actuels. Épisode 17. Je reçois Sophie, diplômée du CELSA, qui a décidé de changer de mode de vie suite à un surmenage professionnel. Elle nous raconte comment elle s'investit pour prendre soin des hommes grâce à la pratique du shiatsu et en accompagnant les entreprises dans leur changement de business model pour prendre en compte le vivant. Bonne écoute!
Bonjour Sophie!
Bonjour!
Sophie, tu as 30 ans et tu es en plein changement de voie. Après avoir travaillé dans des cabinets d'études et en marketing depuis la fin de tes études au CELSA, tu as décidé d'opérer un virage pour aligner tes valeurs avec tes actions. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce changement, comment tu le vis et dans quelle direction tu t'orientes ?
Alors en effet, j'ai terminé mes études en 2014. J'ai fait le magistère du CELSA que j'ai fait en apprentissage et donc j'ai été prise dans l'entreprise où j'avais fait mon apprentissage avant d'être débauchée 3 ans plus tard pour une autre agence. Et en parallèle, ou peut-être parce que le métier révèle beaucoup de vanité, mes convictions écolo sont devenues de plus en plus prégnantes et j'ai commencé par appliquer des choses dans la sphère privée sur des choses à la maison. Et finalement, c'est un peu comme si maintenant c'était autour de la sphère publique, entre guillemets, d'être marquée par ces transformations. Et donc, je m'oriente vers la création de mes métiers. Et ça, c'est très excitant. C'est très satisfaisant pour une personne créative d'avoir l'impression de prendre sa vie en main et de la façonner de manière à ce que tout nous corresponde. Mais c'était un vrai cheminement jusque-là.
D'accord. Bah, tu vas pouvoir nous raconter ça un peu dans le détail. D'abord, j'ai une petite question. Qu'est-ce que ça veut dire façonner ses métiers ?
Suite à un moment un peu difficile, en fait, c'était aussi prendre conscience que tu peux faire ce que tu veux de ta vie. C'est une chose de l'entendre, c'est une chose de le dire. Enfin, ça fait partie de ces trucs qu'on entend un peu partout. Tu peux être ce que tu veux, etc. Mais de là à le comprendre vraiment et à l'avoir au fond de soi pour pouvoir le mettre en œuvre, il fallait quand même faire tomber, pour moi en tout cas, certaines barrières. Et de se dire, je ne rentre pas dans certains clous, j'ai pas envie mon parcours il n'est pas linéaire, où j'ai beaucoup de centres d'intérêt, et donc je peux aujourd'hui, parce que j'en ai les moyens, parce que la société ou le monde du travail m'en offre la possibilité, je peux faire ce que je veux. Et peut-être que je fais un métier qui n'existait pas avant, etc.
Et alors, qu'est-ce que c'est que tu veux aujourd'hui ? Vers quoi tu t'orientes ?
J'ai décidé de diviser mon temps en plusieurs activités. Certaines sont rémunératrices, d'autres non, ou d'autres ponctuellement. Peut-être que je slasherai plus à l'avenir, puisque c'est ce dont on va parler. Et en gros, pour être concrète, aujourd'hui, j'ai 2 activités professionnelles principales. Je dis souvent en rigolant quand je me présente que je prends soin. Je prends soin des gens et je prends soin des business. C'est-à-dire que je me définis comme passeuse pour une de ces activités-là. J'aide les entrepreneurs qui le veulent à aller vers des business models plus soutenables, à passer du côté du vivant, pour employer des grands mots, en ne prenant pas en compte uniquement des facteurs financiers pour juger de la réussite de leur activité ou de sa pérennité, mais de prendre d'autres indicateurs de performance. Et en fait, in fine, ça fait quand même dire des gros mots comme décroissance, etc., qui ne sont pas encore trop abordés dans le monde professionnel. Et pour la partie prendre soin des gens, je le mets en action, évidemment à travers les relations professionnelles que j'ai, mais aussi très concrètement à travers le shiatsu, qui est une approche de soins dont je suis en train de terminer la formation.
D'accord, je te propose qu'on rentre dans les deux sujets l'un après l'autre. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur la manière dont tu prends soin des entreprises et que tu accompagnes les entrepreneurs? Concrètement, ça se passe comment? Est-ce que tu as des exemples un petit peu à nous donner? Et puis après, on pourra parler un petit peu du Shiatsu plus en détail.
Ok. Pour la première, c'est une activité de conseil. Donc avant de faire ça, je travaillais jusqu'à très récemment encore dans une agence qui fait du conseil en marketing. Du branding et notamment des études qualitatives. Et je trouve que le marketing, la communication, c'est vraiment un champ très, très puissant et très intéressant pour arriver à faire passer des idées. Donc, je n'avais pas envie de laisser ça de côté. En plus, intellectuellement, c'est quand même stimulant, c'est hyper intéressant. Mais j'ai voulu plutôt réorienter cette activité vers quelque chose dans lequel je me retrouvais plus. Qui est d'accompagner les entreprises à revoir un peu leur façon de faire. Donc, j'ai commencé par me former à la fresque du climat, ce qui est en fait une très, très bonne approche pour commencer quand on s'interroge sur comment faire autrement et pourquoi. Ça permet de mettre tout le monde au même niveau dans une entreprise sur les enjeux du changement climatique et de vraiment comprendre pourquoi il faut agir, et à partir de là, on peut réfléchir ensemble à comment. Après, il y a d'autres outils qui existent pour penser des services, des modèles d'entreprise, notamment, j'imagine que tu connais le Circular Canvas, tout ce que fait Circulab, etc. Donc, je m'appuie sur des outils de ce genre-là pour aider, pour animer des workshops et à faire avancer une réflexion autour de voilà, comment on peut transformer notre entreprise. Comment est-ce qu'on peut, quels services on peut offrir qui sont pensés de manière soutenable, mais ça implique de vraiment changer de façon d'envisager le travail. Pourquoi tu travailles, pour qui, comment, parce que c'est parfois difficile à dire ouvertement et c'est compliqué aujourd'hui parce que c'est vraiment pas les règles du jeu. Qu'au final, l'idée, c'est quand même de produire tout à fait autrement dans un cadre qui existe peu aujourd'hui, voire pas du tout.
Et ça, c'est une activité que tu as déjà lancée, tu es déjà sur des projets ou sur laquelle que tu es en train de concevoir?
Je me suis lancée là et le confinement m'a aussi pas mal aidée pour me donner du temps pour avancer sur ce projet. Donc, j'ai des choses pour fin août qui sont prévues avec des entreprises ou des collectifs. Justement, je suis entrée en contact avec un collectif qui s'appelle Les Impactrices qui est en train de justement mener cette réflexion autour de son business model. C'est hyper intéressant et ça fait énormément de bien aussi de rencontrer des gens avec qui on est sur la même longueur d'onde ou à qui justement ces mots-là de décroissance, etc., ça ne fait pas forcément peur parce qu'elles ont intégré que l'idée, ce n'est pas du tout de produire plus, de faire beaucoup d'argent ou en tout cas de se poser la question de si on fait de l'argent, qu'est-ce que ça sert et qu'est-ce qu'on en fait. Ça me rappelle certains cours que j'avais eus où cette question de l'argent, en fait, elle est essentielle dans notre approche et ça remonte en fait à très loin à l'ère industrielle. Donc, c'est intéressant de voir qu'au moment où on doit se poser la question de comment produire autrement, on remonte à ça. Mais c'est Charles Dickens déjà qui l'abordait dans certains de ses romans. Tout à coup, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à gagner beaucoup d'argent alors que d'autres devenaient très pauvres. Et la question presque morale de l'argent, elle est posée depuis très très longtemps.
Et du coup, comment ça se passe ces réflexions là avec les entreprises par rapport à l'argent? Vous définissez de nouveaux indicateurs d'évolution dans l'entreprise?
Moi je suis pas du tout là pour donner des leçons aux entreprises, mais vraiment pour m'adapter à ce qu'elles veulent, ce qu'elles demandent. D'ailleurs, c'est pas le but de toutes celles et ceux qui viennent me voir de gagner moins d'argent, mais en tout cas d'initier une réflexion autour de pourquoi on travaille. Donc, en fait, la question de l'argent, elle est évidemment toujours activée ou sous-jacente, mais de se dire peut-être qu'il y a autre chose. Et d'ailleurs, Enfin, c'est tout ce qui s'était dit il y a quelques années autour de la génération Y, etc., sur le rapport au travail. L'argent n'est pas le seul moteur aujourd'hui. Et évidemment, il faut l'aborder. Et c'est essentiel parce qu'on travaille pour notamment produire de l'argent, enfin des richesses. Donc, je m'adapte vraiment à ce que, aux attentes des personnes qui viennent me voir à ce sujet. Mais on ne peut pas l'éluder, cette question-là.
D'accord. Oui, bah, j'imagine bien, puisqu'à un moment donné, il faut que l'entreprise soit plus ou moins rentable pour en tout cas être pérenne.
Absolument. C'est juste intégrer cette question de l'argent au milieu d'autres qui, avant, prenaient moins de place, mais aussi, aujourd'hui, de se dire d'autres indicateurs de performance, de réussite, valent autant, peut-être, que les indicateurs financiers. Mais déjà ça, c'est un gros changement de mindset.
Ah oui, ça, je veux bien le croire. Alors, tu as une seconde activité qui est le shiatsu. Tu es encore dans ta formation en ce moment, c'est ça ?
Oui, j'ai commencé cette formation il y a 6 ans. Et là, je suis dans la dernière année. Comme elle va me prendre beaucoup de temps, ça tombait... En fait, c'était un moment parfait pour moi pour terminer ce que je faisais avant dans cette agence de conseil, de branding, et pouvoir me mettre à mon compte et terminer cette formation. Il y a beaucoup de choses qui se sont goupillées l'année dernière, qui se sont mises en place, qui se sont débloquées pour me permettre de terminer cette formation cette année tout en menant d'autres projets et qui me... Tout ça, en fait, c'est pas tellement de la reconversion professionnelle. Pour moi, c'est vraiment de la réorganisation de vie. C'est vraiment pas... Souvent, on parle de reconversion, de travail, etc. Pour moi, c'était vraiment tout ce qui se passe cette année, ce qui s'est passé l'année dernière, tout vise à juste aligner ses valeurs avec sa vie et pas uniquement aligner son travail et ses valeurs. Et peut-être que ça, c'est une grosse partie.
Oui, bah, effectivement. Et alors, bah, si j'en reviens un petit peu à la genèse, entre guillemets, comment est-ce que ça s'est passé ? Comment est-ce que bah, tu as pris un petit peu conscience de ça par rapport au travail que tu menais ? Comment est-ce que tu as décidé d'opérer bah, du coup, ce changement de vie ?
Déjà, séparer sa vie pro et sa vie perso, ça m'est complètement étranger. Les gens qui sont... à la minute sur leurs horaires ou qui prennent pas d'appel après avoir quitté le travail, c'est pas que c'est bien ou pas bien, c'est juste pas l'exemple que j'ai eu à la maison. Mes deux parents, ils sont entrepreneurs, ils sont à leur compte. Mon père, il est viticulteur, agriculteur, et ma mère étant traductrice, j'ai grandi dans un univers entrepreneurial de gens qui travaillent à la maison, où le travail et la vie privée, enfin, pour moi, c'est même étrange de les séparer dans les mots, mais ça va, tout va ensemble. Donc, je cherchais à donner du sens à mon travail parce que je cherchais surtout à donner du sens à ma vie, à faire le moins de compromis douloureux possible parce que j'avais l'impression de pas être suffisamment à la maison. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'activités, beaucoup de centres d'intérêt. Et c'était très difficile de concilier un travail à plus que plein temps et beaucoup de trajets en transport en commun, notamment avec tout le reste que je faisais avant. J'avais l'impression que mes semaines étaient remplies de mes journées de travail et que j'essayais de caser tout le reste à côté. Et ça s'est mal terminé pour moi parce qu'à un moment où il y a eu plus de charges de travail que normalement, il y avait plus de pression, beaucoup trop de choses à faire, je prenais plus de responsabilités au travail. J'ai fini en surmenage et j'ai été arrêtée. En fait, ça a été assez bénéfique après coup parce que ça m'a fait tomber des barrières sur la façon d'envisager le travail, qu'est-ce que tu attends de ta vie, etc. C'est juste que tout s'est cumulé entre le temps de travail et beaucoup de réflexions que j'avais avant, qui m'ont permis de me dire, ok, je me donne un an pour quitter mon travail et pour passer à autre chose. Je suis pas carriériste au sens conventionnel du terme, ça m'intéresse pas tellement d'avoir un poste au placé, du pouvoir sur les autres. En revanche, ça m'intéresse beaucoup d'avoir des responsabilités, de contribuer à un monde meilleur. Et aujourd'hui des enjeux écologiques qui sont suffisamment énormes pour que ça nous dépasse tous et qu'il y ait déjà beaucoup à faire. Donc juste de s'intéresser à ce sujet, ça fait s'intéresser à la vie, ça fait réfléchir à la vie avec un grand V finalement, à considérer l'essentiel tous les jours. Et juste ça, c'est suffisant pour se dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie et du coup comment je m'organise autour de ça. Et tout ce que j'ai mis en œuvre depuis, ça vise uniquement ça, c'est de se rendre compte que mon travail, je me définis beaucoup par mon travail comme beaucoup de personnes, mais que mon travail, c'est peut-être mes travails, que c'est peut-être plus des activités, certaines rémunératrices et d'autres non. Mais c'est très difficile de sortir du cadre dans lequel on a toujours vécu, parce que c'est le moule dans lequel on est tous. On va à l'école, on fait des études, ou pas, enfin plus ou moins longues, et puis on travaille. Mais au final, voilà, pourquoi, pour qui, comment, est-ce que du temps pour soi qui sert à produire autre chose, peut-être directement alimentaire ou pas, est-ce que c'est intéressant, comment tu mets ça, comment tu organises ça dans ta semaine, ça faisait partie des réflexions. Si tout ça fait sens.
D'accord. Oui, complètement. Et alors, je trouve qu'il y a plein de choses hyper intéressantes dans ce que tu dis. J'aimerais juste revenir un petit peu au moment où tu travaillais dans cette agence de marketing. Est-ce que les questions du prendre soin des business, de la transition écologique, de prendre soin des personnes avec le shiatsu, c'est des choses qui étaient déjà présentes, qui faisaient déjà partie de tes centres d'intérêt, ou c'est quelque chose qui est venu après ?
Non, ça faisait déjà partie. Ce que j'ai réalisé l'année dernière, c'est que finalement, ce moment de crise, c'était l'aboutissement de pas mal de choses. Le shiatsu, je connaissais depuis longtemps. J'avais commencé la formation il y a longtemps. C'est juste que cette période de remise en question très, très intense sur... on va dire que le gros de la crise, c'était quand même 2 semaines, mais c'est étrange à dire. C'est vraiment 2 semaines sur lesquelles j'ai pu beaucoup avancer. Et après, avec des programmes de développement personnel ou notamment de slasher, je me souviens, il y avait un exercice, il fallait mettre des mots sur, il y avait des exercices pour arriver à mettre des mots, sur quel est le point commun de toutes les activités qui nous intéressent. Et c'est là que j'ai compris, en fait, c'est prendre soin d'eux. Alors, prendre soin des gens, prendre soin des business. Comment et pourquoi, après, c'est à la... Enfin, moi, dans mon parcours, il me semble qu'il n'y a rien de plus... Pourquoi je fais ça ? Il n'y a rien... Si je pense à ce qui m'a le plus marqué ou qu'est-ce que j'ai vu de plus beau dans le monde, dans ma vie, etc., je ne pense pas... Tu me poses cette question, je ne vais pas te répondre du béton ou une maison ou quoi que ce soit. Ce qui m'a paru le plus beau que j'ai jamais vu, c'est des paysages. Et ça me semble normal de vouloir prendre soin de ce qu'on aime bien. Ce qui me rend heureuse dans la vie, c'est effectivement pouvoir me balader à l'extérieur, c'est rencontrer des gens et partager des moments, partager du temps, en donner aussi. Et à partir de là, en tout cas dit comme ça, ça paraît logique de vouloir prendre soin de tout ça. Et quand je parle d'aller à l'essentiel, c'est que si je me dis, ok, moi j'ai envie de protéger ce qui est vivant parce que c'est ce que j'ai vu de plus beau dans la vie et c'est ce qui me rend heureuse, et ben, si tu en as la possibilité, si tu veux, et en tout cas moi c'était mon cas, j'ai décidé de me réorganiser autour de ça. D'où la prégnance de l'écologie dans ma vie. Mais bon, c'est des choses avec lesquelles j'ai grandi, il y avait quand même un terreau pour ça.
Et alors, je reviens sur la partie développement personnel et méthodologie que tu as suivie. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Est-ce que c'était, par exemple, une sorte de bilan de compétences que tu as fait ? Peut-être une méthodologie particulière, un outil que tu as utilisé pour découvrir ça et comprendre que le point commun, on va dire, ou le dénominateur commun de tes centres d'intérêt était le fait de prendre soin ?
Oui, il y a eu de ça. quand je suis tombée malade du coup l'année dernière et que j'ai eu un arrêt suite à ce surménage, à ce moment-là, j'ai réalisé déjà que je m'épanouissais en faisant plein de choses et que c'était, ça n'allait plus être tenable de n'avoir qu'un seul métier. Et là, j'ai découvert le mot « slasher ». Et c'est tellement bête, hein, mais c'est tout un univers qui s'est ouvert à moi de me dire oh, « mais en fait, on peut faire plusieurs métiers. En fait, on peut faire plusieurs choses. Il y a des gens qui ont plusieurs métiers et qui en vivent. Je ne suis pas obligée d'avoir un métier et plein de loisirs à côté. » Et c'est très bête, hein, dit comme ça, mais c'était vraiment pas l'optique dans laquelle j'avais grandi. C'était pas l'optique qu'on m'avait donnée dans mes études non plus. Quand on te forme à être cadre, on attend de toi, comme tu as fait des études et que tu as un très bon poste, on attend de toi que tu donnes beaucoup de ton temps pour le travail. Et c'est souvent exclu d'avoir une deuxième activité à côté, professionnelle en tout cas. Et juste ça, de se rendre compte que, en plus, j'étais pas la seule et que des slashers, ça existait déjà et depuis longtemps, etc., c'était extrêmement libérateur. Donc, je me suis mise à lire pas mal d'articles, des bouquins, etc. là-dessus. Et à ce moment-là, l'année dernière, il y a une personne qui s'appelle Laura Besson qui venait de monter sa boîte sur, qui s'appelle Bien dans ta boîte, Bien-être pour entrepreneurs, et qui avait publié pas mal de choses sur les slashers parce qu'elle l'avait été elle-même, et notamment un petit bilan pour les slashers. Et donc, il y avait des exercices de développement personnel autour de devenir slasher, comment ça se passe, comment tu établis ces activités, comment tu démarres, etc. Et ça, c'était mon point de départ l'année dernière.
D'accord, ok. C'est vrai que je ne connaissais pas le terme slasher avant il y a peut-être quelques semaines, mais personnellement, ça me convient pas mal aussi. Mmh. Et c'est vrai que je me retrouve aussi beaucoup dans ce que tu dis avec le fait de pouvoir avoir plusieurs activités pour un peu nourrir les différentes facettes de sa personnalité. Si j'en reviens maintenant donc à ce moment de changement et un petit peu à cet univers qui s'est ouvert à toi, quelles ont été un peu les réactions de ton entourage? Est-ce que toi, tu as ressenti des sentiments particuliers à ce moment-là? Puisque bah, tu te lançais, on va dire, c'est un peu la fin du CDI protecteur, de la ligne un petit peu conventionnelle. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là?
Déjà, par où commencer pour cette question? Les réactions, ça n'a pas fait trop de bruit autour de moi. Ça faisait des semaines que j'étais pas bien. Mon conjoint voyait que j'allais pas bien. Donc le moment où je lui ai dit, écoute, je peux plus continuer comme ça, il va falloir que je quitte mon travail, ça l'a pas particulièrement surpris. On venait d'acheter une maison quelques mois auparavant qu'on retape, qu'on rénove, et nous-mêmes notamment, donc ça demande pas mal de temps. Et peut-être la seule réaction un peu tiède que j'ai eue, c'était bien sûr, mais on a quand même des engagements sur une maison, etc. Et cette inquiétude, elle était d'ordre financier. Mais c'est vraiment la seule que j'ai eue, parce qu'autrement, ayant grandi dans une famille d'entrepreneurs, c'était pas surprenant, ça fait pas peur de se dire je me lance. Mon grand-père lui-même, enfin en fait ça remonte à loin, mais bon, il y a beaucoup de monde dans ma famille qui est entrepreneur, donc ça, même sur le cercle familial plus large, ça surprend personne, ça n'inquiète personne. Et sur le cercle amical, j'ai plus eu du soutien qu'autre chose. Donc effectivement, je ne fais pas partie de ces personnes qui se lancent en ayant un cadre amical, familial, enfin des proches complètement réfractaires. Et ça coulait plutôt de source. Après, effectivement, il y a des craintes financières, un petit peu sur les engagements qu'on a au niveau de notre maison, des travaux, de comment ça fait se projeter dans l'avenir. Mais pour moi, ça n'a jamais été trop un stress, parce que j'ai grandi dans une famille qui est assez modeste. On ne faisait pas le tour du monde en vacances, et ça ne m'a pas du tout empêché d'avoir une enfance extrêmement heureuse de faire plein de choses et de m'épanouir. Donc, je suis assez détachée de l'argent à la base. Donc, ça ne m'inquiète pas trop. Par contre, il était certain que pour opérer un changement de voie, il faut quand même avoir un minimum de rentrée d'argent. C'est une sécurité pour moi, par exemple, de savoir que je touche un petit peu de chômage le temps de terminer ma formation et le temps de me lancer, parce qu'il y aura peut-être des mois un peu plus maigres que d'autres. Mais c'est pas un stress plus grand qu'un autre. Je pense que la peur de l'échec, elle est beaucoup plus grande que la peur de manquer d'argent, par exemple.
Et pourquoi la peur de l'échec, alors ? En quoi ça t'effraie de te dire bah, « là, je vais pas y arriver » ?
Elle est longue, cette question.
oui.
Pourquoi la peur de l'échec ? Je ne sais pas, la réponse facile, c'est peut-être de dire quand on a toujours été bon élève et qu'on a peu connu l'échec, ça fait toujours un peu peur. Mais non, je pense que la vraie réponse à cette question, c'est quand c'est ton projet, que c'est celui auquel tu crois dur comme fer et que tu te mets corps et âme et les mains dans le cambouis dedans, t'as pas forcément envie de le voir capoter. C'est surtout ça. De te dire, effectivement, je pense que j'ai quelque chose, j'ai peut-être quelque chose à apporter. Il y a peut-être moyen d'aider les gens à penser autrement leur travail, etc. Et si ça marche pas, ben c'est dommage parce que moi j'y crois. Mais c'est peut-être pas une super réponse. Je sais pas.
Quand tu dis non, c'est hyper intéressant. Mais quand tu dis ça marche pas, ça voudrait dire que ça marche pas financièrement, que tu n'arrives pas à en vivre ?
Un peu, parce qu'effectivement je compte là-dessus. Une des raisons pour lesquelles je veux se lâcher, c'est de me dire je veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier, parce que s'il y a un truc qui marche pas, et ben c'est pas grave, j'aurai autre chose. Également parce que ça met moins de pression sur une de ces activités, de se dire je peux aussi la faire pour le plaisir sans que ça ne devienne qu'une question d'argent. Et peut-être aussi parce que si finalement ça marche pas, quand je dis ça, c'est peut-être ça intéresse pas les gens, ou peut-être imaginons que on considère que je suis pas forcément la mieux placée pour faire ça. Ça, c'est aussi des questions sur ce que ça renvoie de l'image de soi. Mais comme je m'épanouis en faisant plusieurs activités, je vais pas me faire tacler sur tout, donc c'est pas trop grave.
Ce qui me permet de faire une petite transition, parce que en fait, je me rappelle qu'on n'a pas parlé du shiatsu. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment tu as découvert ça ? Pourquoi est-ce que c'est important pour toi ?
Alors, le shiatsu, ça remonte à loin. Comment j'ai connu ? J'ai connu quand j'étais ado. Je faisais de l'aïkido, j'en ai fait une dizaine d'années. Et l'aïkido, c'est très intéressant comme art martial, parce que ça a beau être un art martial, ça a une philosophie non violente, ce qui est très intéressant dans l'approche. Et je ne sais pas pourquoi, il y a des ponts qui se font aisément avec le shiatsu, qui est une approche de la médecine orientale qui vient du Japon. Shi, ça veut dire le doigt, et atsu, ça veut dire appuyer, tout simplement. Et donc, c'est une méthode d'acupression qui suit les trajets des méridiens et qui soulage des tensions autant physiques que mentales, etc. Il y a plusieurs types de shiatsu, il y a plusieurs écoles, etc. Mais en tout cas, celui que j'apprends, moi, à Paris, c'est celui du yokai shiatsu. Et j'aime beaucoup cette approche globale de la médecine orientale et le fait de ne pas séparer le corps et l'esprit. J'aime beaucoup, en fait, cette approche holistique, et parce que ça fait sens aussi dans ma vie, l'écologie, l'économie, c'est aussi de plus en plus une approche holistique. Le fait de ne pas cloisonner, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours beaucoup, parce que j'ai le fantasme de vouloir comprendre les choses entièrement. Et d'ailleurs, dans le shiatsu, comme dans beaucoup de d'autres types de médecine, on voit qu'il y a, il y a beaucoup de maux qui peuvent venir du corps ou de l'esprit et qui s'alimentent l'un et l'autre. Le cas le plus évident étant par exemple le stress, qui est un ressenti et qui peut avoir des répercussions et des conséquences physiques plus ou moins grandes selon le niveau de stress par exemple. Alors, donc ça aussi c'est très bon pour le développement personnel, le shiatsu. Et donc j'aimerais effectivement pouvoir, moi-même j'en ai beaucoup bénéficié, ça m'a beaucoup aidée, et à mon tour j'aimerais pouvoir en faire profiter le plus grand nombre, parce que c'est une approche qu'aujourd'hui je pratique un peu bénévolement, j'ai fait quelques séances comme ça, rémunérées plus ou moins, mais je pourrais officiellement ouvrir mon cabinet l'année prochaine. On est invité très tôt à pratiquer en fait dans la formation, parce qu'il y a vraiment que ça qui fonctionne. Il faut faire. On peut aller en cours, mais ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, on ne peut pas obtenir la certification si on n'a que suivi les cours, parce qu'on n'a pas assez de pratique. Le shiatsu, c'est vraiment mettre les mains dans le cambouis, ou plutôt mettre les mains sur les gens et pratiquer, être à l'écoute de l'autre, être présent, mais sans vouloir forcer les choses. Le shiatsu, c'est vraiment une approche très, très complète, très complexe aussi, autant dans la théorie sur la médecine orientale que la compréhension de soi, de l'autre, de la distance, apprendre à toucher les gens d'une façon qui est très proche, très tactile, mais en ayant la bonne distance relationnelle, c'est hyper intéressant. Ça fait beaucoup réfléchir, ça fait beaucoup grandir et ça fait beaucoup apprendre au contact de l'autre.
Et par rapport à l'avenir, comment est-ce que tu le perçois? Comment est-ce que tu envisages les événements à venir pour toi au niveau professionnel, même au niveau personnel? Est-ce que tu veux changer un petit peu ta manière de vivre, ton endroit de vie en même temps que tu transitionnes au niveau professionnel? Comment ça va se passer?
Alors non, justement, effectivement, je vois en parlant que tout converge vers la mise en place de tout ça aujourd'hui. Il y a, comme je disais, il y a un an et demi, on a acheté une maison avec mon conjoint qu'on retape. Et l'idée pour moi, c'était vraiment de pouvoir me relocaliser et de ne plus forcément faire autant d'allers-retours à Paris pour travailler, etc. J'aspirais vraiment à un rythme de vie plus calme. Et ça s'insère dans une réflexion très globale sur ce que j'attends de ma vie, sur pourquoi je fais les choses, qu'est-ce que j'en attends. Et cette maison, elle est notamment très importante parce que c'est ici que je pourrais ouvrir un cabinet. Dans sa disposition, la maison offre un espace qui peut être très indépendant et qui permette d'avoir un endroit pour travailler et pour recevoir des gens pour le soin. C'est aussi une maison qui offre un terrain, et dans une réflexion d'autosuffisance, c'est aussi un endroit où on peut faire pousser des choses. En fait, tout converge dans mon idée à me ramener et à me relocaliser pour ne plus me disperser autant au sens mental que physique. Et le shiatsu, c'est important pour ça aussi, à la fois dans ma formation et le fait que je veux en faire mon métier, mais aussi dans l'approche méditative du shiatsu, qui est aussi une façon de se recentrer. Et je pense que c'est ça vraiment le mot-clé pour moi sur ces dernières années et sur celles à venir. Certaines qui sont personnalisée ou vraiment visible par la maison, parce que construire sa maison, construire l'endroit où on vit, ça dit aussi beaucoup de choses de ce qu'on attend de la vie. Et une des raisons qui faisait que je savais aussi que j'allais pas pouvoir continuer mon métier, le métier que je faisais avant trop longtemps, j'ai adoré ce que j'ai fait et j'aime toujours, et je suis partie en très bons termes, etc. c'était plutôt, je voyais que ça menait à une incompatibilité entre ce que je voulais de ma vie perso et de ma vie pro. Comme j'ai dit tout à l'heure, je sépare pas les deux, je peux pas séparer les deux, je laisse pas une partie de moi à la maison quand je vais au travail, de même que je ne laisse pas une partie de moi au travail quand je rentre à la maison. Et donc cette idée de recentrer, elle est visible dans tout ce que je mets en œuvre aujourd'hui, parce que je voyais dans mon tout premier poste, les gens se donnaient pour leur travail, vraiment intensément, ils aiment ce qu'ils font, etc. Et ils le font très bien. Mais je voyais des directeurs et des directrices de clientèle qui passaient énormément de temps au travail, avec énormément de pression, de stress, etc. C'était des gens qui ne voyaient pas toujours beaucoup leurs enfants. Et j'ai su assez vite que ce n'était pas ce que je voulais. Moi, j'ai grandi effectivement avec des parents entrepreneurs, mais des parents aussi à la maison. Et dans la réflexion de fonder une famille, j'envisage pas forcément d'avoir des enfants et de les laisser tout de suite à une nounou. Et c'était important pour moi de pouvoir vraiment concilier le travail et le temps libre, le temps de travail, le temps de la maison, le temps libre, pour faire le moins de compromis douloureux, de pas avoir l'impression de faire l'un au détriment de l'autre. J'aime beaucoup travailler, j'adore ce que je fais, mais j'aime beaucoup être à la maison, j'adore passer du temps avec ma famille. Et c'était important, c'est important pour moi, et c'est vraiment ça qui me motive et qui motive mes choix aujourd'hui, de pouvoir faire tout ça au mieux. Et c'est un peu compliqué quand on a beaucoup, beaucoup de centres d'intérêt aussi et qu'on aime faire beaucoup d'activités, de concilier tout ça. Et c'est pour ça que c'était très libérateur pour moi de me rendre compte que j'étais pas obligée d'avoir qu'un seul métier. Et que certaines activités pouvaient peut-être prendre plus de temps dans ma vie, peut-être effectivement à condition d'être rémunératrice, ou alors à condition de gagner moins d'argent, ou de revoir ses besoins, etc. Mais cette période très difficile de l'année dernière, elle m'a vraiment permis de me sortir de certains schémas et de me dire tu peux façonner ta vie comme tu veux. Le reste, c'est que des freins qu'on se met soi-même. C'est que des barrières psychologiques avec lesquelles on grandit, etc., mais qu'on a pour nous. Et c'était extrêmement libérateur de se rendre compte qu'on pouvait sortir de ça.
C'est hyper inspirant et ça donne très envie. On arrive à la fin de cette émission et j'ai une dernière question pour toi. Qui est de, si tu pouvais faire un saut dans le passé, monter dans la DeLorean et venir te parler à la Sophie qui est encore au CELSA, qu'est-ce que tu lui dirais, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire, quel conseil tu voudrais lui donner?
Je pense que déjà je referais pareil, parce que tout ce que j'ai fait converge à qui je suis aujourd'hui et ce que je fais aujourd'hui, et je suis très contente de ce que je fais aujourd'hui. On nous disait pendant les cours qu'on serait sans doute amené à créer nos métiers, qu'il y a beaucoup de métiers qui existent aujourd'hui, qui n'existaient pas avant, etc. J'avais du mal à y croire, justement. Ce n'était pas très concret pour moi. Je pense que j'avais beaucoup de barrières. Et avec quelques années d'expérience dans le monde du travail et quelques difficultés surmontées aussi, en fait, ça prend tout son sens. Et la Sophie du CELSA... je me dirais, mets encore plus les mains dans le cambouis, n'aie pas peur d'y aller et fais-toi plus confiance. Ose plus. Ose avec un Z, évidemment.
Ok. Et si tu avais des étudiants du CELSA face à toi ou d'autres actifs qui se posent des questions, est-ce que tu aurais des conseils en particulier à leur donner pour se réorienter ou changer de vie?
Surtout d'expérimenter, je crois, et de trouver le moyen, effectivement, de sortir de ces cadres établis en se disant, d'avoir les moyens, en fait, de se poser les questions et d'y répondre, surtout. avoir les moyens de répondre à la question « qu'est-ce que tu attends de la vie et, comment tu peux le mettre en œuvre ?» Parce que c'est de moins en moins tabou et de plus en plus évident aujourd'hui que le monde va beaucoup changer dans les prochaines années. Ma prof de littérature en première et en terminale, elle nous disait « le monde n'est plus ce qu'il n'a jamais été » pour contrer un peu toutes les personnes aigries qui disaient « c'était mieux avant ». Aujourd'hui, la question, elle se pose pas du tout en ces termes-là. C'est surtout le monde sera complètement différent de ce qu'on a connu. Pour celles et ceux qui sont en âge de qui veulent fonder une famille, je crois que la question de qu'est-ce que tu lègues à tes enfants, elle est essentielle pour guider certains choix, pour se demander de ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on leur laisse. Et pour les plus jeunes, enfin, si c'est pas assez concret de se dire qu'est-ce que je veux laisser à celles et ceux qui viennent après moi, le temps qu'on ait en vie, parce qu'on a à peu près le même âge, toi et moi par exemple, ce sera déjà suffisant pour voir tous ces changements opérés. Donc comment j'ai envie de vivre et comment je le mets en œuvre au-delà de tout ce que j'ai connu, de ce qu'on m'a appris qui est bien ou mal, qu'est-ce que j'ai envie de protéger et de quoi j'ai envie de profiter, c'est vraiment une question importante à se poser.
Et alors, j'avais complètement oublié cette question, mais est-ce que tu aurais aussi des conseils de lecture ou de visionnage ?
Un sujet qui m'anime particulièrement en ce moment, c'est celui des low-tech. Donc, j'imagine qu'il a déjà été conseillé, mais « L'âge des low-tech » de Philippe Bewix, c'est vraiment un incontournable. Tout ce qui se fait aujourd'hui dans les low-tech, l'innovation frugale, ça vaut vraiment la peine de s'y intéresser. C'est extrêmement intéressant et c'est très porteur, je pense. À tout hasard aussi, je lance dans quelques semaines un podcast sur les business models alternatifs, justement, pour mieux faire connaître ce qu'on peut faire autrement et qu'on peut faire autrement. Donc j'espère que ce sera une recommandation inspirante également. Et une dernière recommandation inspirante, quelqu'un qui m'inspire beaucoup et qui m'aide beaucoup aussi, c'est Maxence Fourneau qui tient Marketing Résistant. Et il y a aussi des choses vraiment pas mal à aller voir de son côté.
Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais ajouter ?
Je ne sais pas, il y avait tellement de choses à dire dans les questions que tu m'as envoyées. J'espère surtout que tout ce que j'ai dit, ça fait sens. J'espère que ça aidera certains et certaines à oser, parce que pour le coup, le titre est bien choisi.
Sophie, je te remercie beaucoup pour ton témoignage, pour ton temps. Et je te souhaite bonne chance.
Merci beaucoup. Merci de m'avoir permis de faire cet entretien.
Et je te dis à très bientôt.
Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.
Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, à mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. C'est une aide très précieuse pour faire connaître le podcast et me permettre de continuer l'aventure. Oser a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. À bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, osez !